Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
L'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Et nous allons faire cette lecture que vous connaissez, hein, je n'en doute pas. Dans ce chapitre 3, le verset premier, et puis nous allons en effet prendre en considération eh bien, ce passage avec son message, tout ce qui est nécessaire pour nous, de savoir, de connaître et de croire aussi, hein, parce que c'est le but. Alors, Matthieu, chapitre 3, verset premier. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, les habitants de Jérusalem et toute la Judée. Et tout le pays des environs du Jourdain se rendait auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera jeté et coupé au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voilà. Dans une première partie de ce texte, eh bien, nous avons, à travers les 6 premiers versets, on peut le dire comme ça si l'on fait une petite étude de ce récit, d'abord un message singulier, puisqu'il est question de quelque chose que les gens ne connaissent pas. On en parlera, le baptême, ça n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait des ablutions des Juifs, mais l'idée, la pensée du baptême, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui vient avec le Nouveau Testament, la venue de Jésus. Donc un message singulier, voilà un homme qui apparaît, il s'appelle Jean-Baptiste, on le connaît, il prêche dans le désert de Judée. Et voilà qu'il y a des foules qui viennent en grand nombre et qui se pressent et qui, véritablement, eh bien là, sont en attente de quelque chose. On le tient pour un prophète, hein, d'ailleurs c'en est un. Et il y a naturellement, eh bien, autour de tout ce phénomène, de ces multitudes qui se pressent autour de Jean-Baptiste, la réalisation d'une prophétie, d'une ancienne prédiction qui remonte du temps d'Ésaïe, prédiction qui se réalise, hein, il est dit selon ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « Voici la voix de celui qui crie dans le désert ». Et vous savez que Jean-Baptiste nous est présenté d'ailleurs à travers quelques livres, c'est vraiment un personnage atypique. Imaginez-vous, hein, il nous est dit qu'il avait un poil de chameau, hein, c'était pas je ne sais pas moi, vous savez, les grands couturiers, des choses comme ça, poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, voilà un petit peu de quoi il était vêtu. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel. Alors, est-ce que ça vous conviendrait? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est pas un habillement et c'est pas non plus quelque chose qui fait partie de nos habitudes. Hein. Mais il y a naturellement, eh bien, un message aussi. Et ce message, il nous est redonné, on l'a lu, hein, en substance, préparer le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers, ben, son chemin, en tous les cas. Et cela provoque un examen de conscience chez les gens qui sont là, par centaines, par milliers, qui se pressent. Ça doit faire grand bruit, naturellement, eh bien, là, dans le pays d'Israël et en pays de Juda, et puis le reste, hein, naturellement. Et nous voyons qu'il est question d'une chose qui est inconnue pour les Juifs, c'est le baptême, le mot baptême. Ils ne savent pas ce que c'est, ils savent bien hein, que les Juifs ont toutes sortes de rituels de lavement ou de lavage, si vous voulez, de purification à travers des ablutions, toutes sortes de choses. Mais le mot baptême, c'est quelque chose qui vient. Et nous voyons que quand on lit le Nouveau Testament, et si on veut aller un petit peu plus loin en ce qui concerne ce baptême de Jean plus celui que Jésus va enseigner, c'est-à-dire il l'enseignera à ses disciples qui baptiseront après Jésus, il y a une petite nuance à faire. Jean a baptisé pour préparer la repentance, préparer le chemin du Seigneur. Ça, c'était le baptême de Jean, qui s'est certainement, eh bien là, perpétué après, naturellement, on en trouve quelques traces, eh bien, dans le Nouveau Testament, mais après est venu vraiment un second baptême, qui était le baptême vraiment de Jésus, ordonné à ses disciples, et que nous pratiquons encore 2000 ans après. Pas le baptême pédobaptisme, le baptême des enfants, mais le baptême des adultes, avec naturellement une signification, parce que Dieu en avait donné un ordre. Jésus avait dit, bien voilà, pour ceux qui auront cru et qui seront baptisés. Hein, il y a là un ordre tout à fait clair, qui revient d'ailleurs dans les textes du Nouveau Testament, et puis une obéissance volontaire. Chez un enfant volontaire, hein, on lui attribue une religion, point final, et puis ça s'arrête là. Hein. Et après, il en fait ce qu'il veut, hein, de cette cérémonie, si on peut appeler ça une cérémonie, parce que dans le Nouveau Testament, c'est pas une cérémonie, c'est un acte d'obéissance avant tout. Et pour aller un petit peu plus loin, puisque bon, on est sur le texte, la signification du baptême de Jean, je vous l'ai dit, hein, c'est d'ailleurs c'est marqué, hein, il est dit à un moment donné, mais « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Et ça, c'est ce qu'il faut toujours entendre. Amener à la repentance. Nous, quand nous baptisons, les gens se sont repentis. Et nous baptisons après. Ils se sont convertis à Jésus-Christ. Mais là, c'était des préparations. C'est pour ça que dans, probablement, eh bien, dans certaines Bibles, et moi j'ai intitulé mon message ce soir, « Préparer le chemin ». Et je pense que c'est quelque chose de nécessaire. On voit qu'il y a des gens quelquefois qui sont directement confrontés avec l'Évangile, ils comprennent pas grand-chose parce que et pourtant ce sont des gens qui peut-être et là sont membres d'une religion ou d'une communauté religieuse. Puis bon ben voilà, ils restent sur des traditions, sur des rites, sur des ordonnances humaines, des commandements d'hommes, ils n'en savent pas plus. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande différence et surtout dans l'examen de ces textes. Alors le baptême de Jean. C'était, et ça l'est encore aujourd'hui, il faut bien le dire même pour nous, c'est l'expression publique. Et il y avait du monde, hein. Il y avait des dans le Jourdain, il baptisait Jean-Baptiste, hein, et il y avait probablement autour des gens qui venaient, on se le disait, des gens venaient, repartaient, se le disaient à d'autres, et puis voilà, je ne sais pas combien de temps ça durait, mais c'est une expression publique. Et le symbole, et ça c'est important, et c'est ce qui fait que Jean-Baptiste dira, mais c'est pour vous préparer la repentance. Alors il y a des mots expliqués ce soir que vous connaissez naturellement, mais c'est bien de le redire. Hein. C'est le symbole de la douleur d'avoir péché, c'est-à-dire fait ce qui est mal. Une prise de conscience profonde, réelle, et on le sait très bien, nous avons tous une conscience. Alors pour certains, elle est très aiguisée, elle est même trop affûtée, parce que bon, ils se culpabilisent pour un oui, pour un non. Pour d'autres, bon, bah, ils arrivent à avoir un équilibre de conscience. Bon, ils savent, surtout quand on est chrétien, hein, on sait que on peut tous commettre des fautes et que Dieu pardonne, quand on demande, pardon, naturellement. Hein. Puis il y en a d'autres qui ont tordu le cou, excusez-moi, à la conscience, qui l'ont piétiné, qui l'ont mis, je ne sais pas où, ils l'ont complètement caché. Alors pour eux, ils peuvent se permettre de tout faire. Hein. Mais, dans ce peuple de juifs qui se trouve là, eh bien, probablement l'austérité de Jean-Baptiste, habillé comme ça, ça fait impression quand même. Hein. Et puis, également un message qui était, parce qu'il est dit, c'est une voix qui crie dans le désert. Il devait certainement avoir là, eh bien, une puissance oratoire, je suppose, hein, tout cela. Hein. Puis, de toute façon, à l'époque, quand on était prédicateur, il n'y avait pas de micro, hein, fallait y aller, hein, probablement. Hein. Aujourd'hui, on est aidé, naturellement. Alors, c'est la douleur d'avoir finalement fait quelque chose de mal, ou fait quelquefois beaucoup de mal, des choses qui sont mauvaises, et c'est suivi d'une réparation. C'était le but. C'était pas de laisser les gens là dans cette situation, mais il y avait la proposition finalement d'une réparation à travers ce que l'on appelle la confession. Pas la confession à un homme dans une petite guérite où vous parlez de vos péchés et puis vous repartez avec quelques pénitences à faire, c'est pas ça. Mais ça s'adresse à Dieu. Ça s'adresse à Dieu dans ce sens que, eh bien, la confession, c'est de dire, eh bien, dans l'intimité de notre vie, avec notre conscience éclairée et ouverte, de dire, eh bien, Seigneur, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en ai honte. Et naturellement, eh bien, je dois croire, mais il y a la présence de Dieu qui est là pour nous dire, eh bien, voilà, je te donne mon pardon. Et c'est par la foi que l'on saisit le pardon. Il y a des gens qui demandent continuellement pardon à Dieu, pardon Seigneur, pardon ceci, qu'ils demandent 10 fois, 100 fois par jour, mais qui ne croient pas que c'est possible. Alors à ce moment-là, ça ne sert à rien. Non, c'est une conviction intérieure. Et je voudrais vous dire que se repentir, confesser ses péchés, croire au pardon de Dieu, je dis que c'est déjà un grand miracle. Et ça ne vient pas de nous. Il y a des gens qui s'endurcissent, hein, qui se disent « ben moi j'ai fait ceci, mais pas question, moi je ne saurais pas ». Bon, ça les regarde hein, de toute façon. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que là, il y a là un effet d'une œuvre secrète de Dieu, et il nous est bien dit à un moment donné, quand on va un peu plus loin, mais je ne veux pas m'étendre dessus, mais il nous est dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est une, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre des hommes. C'est pas l'homme qui dit, ben moi, Seigneur, hein, voilà, je fais ceci, je fais cela, je veux ceci, je fais cela. Non, c'est vraiment une douleur profonde, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Et puis naturellement, dans la situation qui nous occupe, puisque j'ai dit que c'était public, c'est véritablement quelque part aussi eh bien, un risque. Eh oui, confesser, se repentir et se faire baptiser, surtout parce que c'est l'aboutissement de ce cheminement. Hein. C'est un risque, c'est un engagement devant tous. Encore aujourd'hui, nous, lorsque dans nos églises évangéliques, nous baptisons des hommes et des femmes, ça ne se fait pas dans une salle de bain à l'intérieur d'une maison, hein. C'est public. Vous vous souvenez, non, pour vous? Ah oui. Alors, il y en a qui me disent « Oh, il faut que je parle !» Voilà, ils sont déjà noyés avant d'avoir été dans l'eau. Hein. Non, mais c'est pour dire que bon, il y a une émotion, c'est vrai. Et puis parler des choses intimes qui nous concernent, de notre vie. Bon, les gens sont très pudiques, ils vont pas tout raconter, parce que bon, voilà, il y a des yeux et des oreilles qui, naturellement, eh bien là, sont à scruter leurs paroles. Mais toujours est-il que ces témoignages sont des véritables prédications. On a entendu des témoignages extraordinaires. Des gens qui revenaient de loin et qui, à un moment donné, ils ont été saisis par Dieu, ils se sont convertis, ils ont cru, et puis ensuite, bah, ils ont voulu aller plus loin, ils se sont fait baptiser. Donc, c'est un engagement devant tous, pour que tous soient témoins que tel homme, telle femme, tel jeune homme ou telle jeune fille, maintenant a pris une décision. C'est pas une décision religieuse ou une décision dans une église, ça n'a rien à voir. C'est une décision devant Dieu. Et ça, c'est important, mais ce qui est fait devant Dieu doit être aussi connu. C'est pour ça que les gens rentrent dans ce que l'on pourra appeler l'Église. C'est une famille, tout simplement. C'est une famille, et dans une famille où il y a naturellement, eh bien là, des choses tout à fait particulières à vivre, et puis aussi, eh bien, à partager ensemble. Donc, c'est être vu, c'est-à-dire se compromettre et prendre parti pour Dieu. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit lorsque je me suis engagé, en disant maintenant, eh bien, tu as montré ton drapeau. Tu n'es plus ce que tu étais auparavant, mais tu es chrétien. Je suis chrétien et je n'ai pas honte d'être chrétien. Quelquefois, il y a des gens qui reculent en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Surtout que souvent les plus rébarbatifs, hein, les plus hostiles, pour certains, dans certains cas, c'est véritablement la famille. D'ailleurs, Jésus nous dit « nul n'est prophète dans sa propre patrie hein, ». Et il a raison de le dire. D'ailleurs, lui-même en a fait les frais, Jésus. Hein. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein, vous voyez quelqu'un qui là, eh bien, a été élevé dans une religion, a été élevé dans toutes sortes de traditions, et puis d'un seul coup, eh bien, il s'est passé quelque chose dans sa vie, et il va dire à sa famille, bien moi j'ai rencontré Jésus, je lis la Bible, voilà ceci et cela, et je peux vous dire quelquefois les gens disent, il est tombé sur la tête, hein, parce que on le connaissait pas comme ça. Ben justement, c'est que ça fait la preuve qu'il y a eu un changement, parce que se faire baptiser qu'il n'y a pas de changement, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Alors donc, c'est un risque, on l'a dit il y a un instant, parce que nous sommes souvent exposés au jugement des autres, à la critique, à l'incompréhension, et puis nous brisons naturellement la tradition, la sacrée sainte tradition des origines dans lesquelles nous avons été élevés. Pour la plupart des Français, c'est le catholicisme, pour d'autres, ça sera autre chose. Pour les Juifs, vous vous rendez compte, Paul qui se fait baptiser, pharisien, d'exception, waouh, c'était terrible. Donc, il y a comme quelque part une brisure, on brise la tradition et les coutumes et on devient anticonformisme déclaré. C'est pour ça que quelquefois c'est difficile de vivre notre vie chrétienne, parce que on a toujours notre famille sur le plan naturel, mais on s'est fait une autre famille, des hommes et des femmes qu'on ne connaissait pas auparavant, et dont le point commun, le lien qui nous rassemble les uns et les autres, c'est notre foi en Jésus-Christ, avec des expériences différentes. Alors, c'est ce qui se passait, Jean-Baptiste prêchait, et bien la repentance. Et puis un peu plus loin, donc, il est parlé de cette voix, c'est Jean-Baptiste, il nous est présenté comme une voix, comme quelqu'un qui parle. Il n'a pas fait de miracle, Jean-Baptiste. Il n'a pas guéri les malades, il n'a pas ouvert les yeux des aveugles, il n'a pas changé l'eau en vin, comme Jésus l'a fait. Mais il avait quelque chose de particulier. Comme beaucoup de prophètes, il était prophète de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il criait, mais lui, il n'était pas au début de la chaîne et dans la continuité de cette chaîne prophétique. Il était à la fin. Puisqu'il nous est dit qu'à un moment donné, ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Qu'est-ce que ça veut dire « préparer le chemin du Seigneur » Il y a une signification naturellement. Dans bien des affaires de la vie, quand il y a des enjeux, quand il y a des objectifs, on pourrait parler de logistique, eh bien, c'est justement de mettre tout en condition pour que ce qui va se réaliser, ce qui vous est offert, ce qui vous est proposé, puisse réussir. Et c'est pour ça que, eh bien, on entretient nos routes, pour que les gens aillent d'un point ici à un autre, pour que ça arrive sans encombre. Et puis beaucoup de choses, des projets par exemple, on prépare, préparer le chemin. Préparer le chemin, non pas n'importe lequel, mais le chemin du Seigneur. Parce que cela veut dire, si nous voulons aller un petit peu plus loin, cela veut dire que le monde, et surtout le cœur des hommes, est si peu disposé à accueillir la parole de Dieu. Il faut bien le reconnaître. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une kyrielle de prophètes qui se sont succédés à travers les siècles. Et ils avaient tous le même message. Ils annonçaient à Israël leur Messie. C'est ce qui se passait. Et puis, nous apercevons que, aujourd'hui, dans notre monde, vous savez, les gens sont préoccupés par autre chose que d'écouter la parole de Dieu. Ils ont tellement d'autres choses à écouter, à entendre, et voire même peut-être à se boucher les oreilles, parce qu'ils veulent pas entendre parler. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une préparation. Sans peut-être le savoir, moi je parle pour moi, mais sans peut-être le savoir, je pense que si nous sommes là ce soir pour ce que nous pouvons représenter, et notre vie, et nos expériences, eh bien moi je crois qu'il y a une préparation. Il y a eu, on pourrait dire, comme dans le monde de la naissance, une incubation, sans qu'on le sache, mais des sentiments, des dispositions, une aspiration à faire quelque chose, jusqu'au jour peut-être où nous a donné une Bible, jusqu'au jour où nous avons entendu quelqu'un nous rendre témoignage. Et là on s'est dit, il y a quelque chose qui commence à s'allumer. Et on a voulu en savoir plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment, eh bien, Dieu s'est révélé à nous, préparer le chemin du Seigneur. Voilà, j'ai toujours voulu lire la Bible, depuis petit, j'ai jamais eu l'occasion, mais je sais que le jour où on m'en a offert une, je l'ai lu et je me suis converti. C'est quelque chose, et j'ai mis quand même du temps. Mais oui, mais bon, que ça soit court ou que ça soit long, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le but, c'est le but, et Dieu, je dirais, eh bien, nous prépare. Vous savez, quand on envoie les enfants dans les clubs d'enfants pour eux, et c'est une préparation de leur cœur pour qu'ils croient au Seigneur, pour qu'ils se préparent aussi. Alors ça s'est fait naturellement, systématiquement dans notre milieu. Mais quelquefois, ce sont des gens du dehors où ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a une aspiration, il y a un besoin, il y a une envie quelque part. Mais ils ne peuvent pas mettre un nom, ils ne peuvent pas mettre un mot. Ils ont le sentiment, ils ont le ressenti, mais ils ne savent pas ce que c'est. Jusqu'au jour où eh bien la lumière va venir, jusqu'au jour où ils vont rencontrer un Jean-Baptiste, par exemple, ou quelqu'un qui va leur rendre témoignage. Alors, c'est vrai que le monde n'est pas disposé à écouter la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais pourtant, il est indispensable d'une préparation, c'est-à-dire une remise en condition, une remise en état, à travers l'écoute de la parole, de la prédication, le message, l'acceptation, parce que quelquefois on peut entendre, mais sans accepter. Ou autrement, c'est une espérance qui va naître, une espérance morale d'abord, souvent au fond de nos cœurs, et qui va se changer, espérance morale, mais qui va prendre une forme beaucoup plus spiritualisée en quelque sorte. Car, il faut bien le dire, le péché est récurrent, l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de la parole de Dieu, eh bien, va faire en sorte de neutraliser la foi, ou nous de blinder dans l'incrédulité, tout simplement, de croire à des inepties, c'est-à-dire c'est de la crédulité, ou de véritablement, eh bien, nous renfermer en disant « je peux pas croire ça, c'est pas possible, c'est pas possible ». Donc, le péché est récurrent au fond du cœur de l'homme, et il est un malheur. Oui, c'est un malheur. Le mal, le péché est un malheur pour l'homme. On n'en voit pas toujours les conséquences parce qu'elles ne viennent pas toujours comme ça. C'est une semence qui est semée, mais quelquefois elle pousse tardivement, mais elle pousse. Et puis c'est un ennemi dont il faut apprendre à reconnaître. Il y a des gens qui appellent bien le mal et mal le bien. Ils ne savent plus, ils sont complètement dans la confusion. Et là, ils ont besoin d'être éclairés par l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin d'être éclairés par la parole de Dieu qui nous dit ben, « ceci c'est bien, ceci c'est mal ». Il y a des gens qui n'ont pas finalement cette notion pour pouvoir être libérés et pouvoir guérir de tout cela, parce que c'est une maladie. Il y a des gens qui sont malades et ils ne le savent pas. Alors ils vont l'apprendre peut-être chez un spécialiste, un médecin, on va lui dire, ben voilà monsieur, le diagnostic est comme ça. Eh bien pour le mal de l'homme qui est le péché, eh bien c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de médecin à ce niveau-là, mais il y a la parole de Dieu. Il y a la vérité dans nos cœurs, aspirer à la vérité. Et puis il y a Saint-Esprit qui nous convainc, on l'a dit tout à l'heure, de péché de justice. Alors la part de Dieu, justement, confrontée à tout cela, comme cette foule était confrontée aux paroles de Jean-Baptiste, eh bien la part de Dieu, c'était de produire une conviction. On ne se convertit pas par une émotion, par sentimentalisme, pour faire plaisir à quelqu'un que l'on aime bien, de la famille ou un ami, etc., en disant, ben voilà, hein, il y a ceci, cela. Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est une conviction. Une conviction, c'est une force à l'intérieur qui nous fait la, eh bien, qui nous fait dire et affirmer que Dieu est la vérité, que Dieu est sauveur, qu'il est le Seigneur, et que j'ai besoin de me repentir pour qu'il puisse me pardonner et vivre une autre vie. C'est une conviction. Vous êtes convaincu? Ben oui. Il faut garder cette conviction, hein, parce qu'elle peut s'effriter à un moment donné. Hein, elle peut se déliter. Hein. Alors, de cette conviction va ressortir la foi. Cette foi qui est comme une petite plante, une petite graine qui pousse, mais qui est disputée, vous savez. Il y a toutes sortes d'ennemis qui sont là tout autour. Hein, et de pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Et alors, à ce moment-là, nous avons fait déjà un grand pas. Je sais que je suis pardonné. Je sais maintenant que Dieu m'aime. Hey, ça c'est une grande chose, hein. Alors que j'ai toujours pensé qu'il me haïssait et qu'il m'avait toujours laissé tomber. Non, que Dieu m'aime. Alors il y a ce travail qui se fait, c'est la part de Dieu. Et puis la part de l'homme, justement, comme on voit ces gens qui se rassemblent auprès de Jean-Baptiste, hein, c'est d'entendre l'appel. Alors je parle pas des voix de Jeanne d'Arc, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Tout ça c'est de la légende. Mais d'entendre l'appel, c'est pas quelque chose d'audible. C'est quelque chose au fond de notre cœur et de notre conscience, où nous entendons Dieu véritablement d'une voix tellement subtile, tellement douce, qui au fur et à mesure commence à nous parler, et là commence à changer les dispositions, notre mentalité et notre façon de réagir. Ça, c'est justement eh bien, de croire et qui nous amène à nous repentir. Voici la voix. On a parlé de cette voix qui nous... de Jean-Baptiste, mais cette voix de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Voici la voix, et puis selon Luc, on y retournera, enfin on ira tout à l'heure au chapitre 3, il nous est dit que aplanissez vos sentiers, que les vallées soient comblées et que les montagnes soient abaissées, les tortuosités de la vie humaine, eh bien là, soit redressé. Connaissez le texte, on va le redécouvrir tout à l'heure. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand un homme veut s'approcher de Dieu, quand un homme entend la parole de Dieu, alors à ce moment-là, il y a des obstacles. Il y a des gens qui disent, mais voilà, j'ai entendu la parole de Dieu, je veux avancer, je lis la Bible, je commence à prier Dieu, mais je trouve toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de dualités à l'intérieur de moi-même. J'ai des combats et des luttes que je n'avais pas avant. Alors ne vous déconcertez pas, je sais que pour certains, vous êtes anciens, il y a longtemps que vous avez passé ça, mais peut-être pour ceux qui découvrent, eh bien, ce sont tous les obstacles, c'est-à-dire les sentiers qui sont élevés. On peut parler peut-être de l'orgueil, de la fierté de soi-même, de l'amour-propre, les vallées qui sont comblées, tous nos déficits, tous nos manques, tous nos manquements, eh bien qu'ils soient comblés, les montagnes soient abaissées, quand on s'imagine qu'on est au-dessus de tout, et puis les tortuosités, redresser tout ce qui est, tout ce qui biaise, tout ce qui est vrillé, tout ce qui fait que on navigue dans toutes sortes de d'eau qui ne sont pas bonnes naturellement. Alors ce sont des obstacles qui obstruent et qui encombrent les cœurs, et c'est là justement où Dieu veut nettoyer les cœurs, veut nous nettoyer et faire place nette naturellement, dont le remède n'est autre que ce que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est simplement dit que ces gens venaient en foule et ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voilà. Enfin, les eaux du Jourdain, c'est comme l'eau à l'estuaire, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui vont en Israël pour se faire baptiser. Ils sont pas plus baptisés que les autres, hein. Pas mieux. Hein. Mais bon, c'est symbolique et tout ça, chacun fait comme il veut, naturellement. Ils confessaient leurs péchés. Ça, c'est une clé importante de pouvoir se trouver devant Dieu et de lui demander pardon. Alors c'est pas un mot qui nous vient à la tête parce qu'on l'a entendu, non, c'est une conviction intérieure qui nous amène, c'est ce qu'on appelle la vraie repentance, qui n'est pas la repentance de la terre, mais quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous amène à pleurer, vraiment cassé, et avec un saisissement profond, hein. Et vous allez peut-être découvrir, parce que moi je l'ai découvert également en méditant, confesser. C'est un terme en français qui rend ce mot, qui a le sens de homologuer. Hein, quand on homologue un produit, quelque chose, homologuer, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire reconnaître après vérification, attention, hein, quand on homologue un vin pour lui donner une appellation, toutes sortes de choses, ou autre chose, un autre produit, peu importe. Hein, c'est reconnaître après vérification la conformité aux normes morales de Dieu. Et pour trouver les normes morales de Dieu, il n'y a pas autre chose que la parole. Il n'y a pas autre chose. Dieu ne nous a pas parlé par des anges, et il ne nous a pas parlé d'une manière extraordinaire, ou ceci et cela, qui sera en dehors de ce qu'il nous a dit. L'Ancien Testament, et particulièrement le Nouveau Testament, c'est la norme morale et spirituelle de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit confessant. C'est-à-dire, je confesse que maintenant, mes fautes, mais je confesse que je veux me normaliser par rapport à la pensée de Dieu, à la mentalité de Dieu qui fait de moi un chrétien et qui a changé ma vie. Et nous voyons que le repentant, on pourrait dire, ou le confessant, eh bien là, en 10 ans, voit soudain ses fautes comme Dieu les voit aussi chez lui. Pas chez Dieu, mais chez nous. Hein, c'est ça. Voir comme Dieu voit. Ça, c'est important. Hein. Qu'est-ce que tu vois en moi, Seigneur? Alors, on a tous nos failles, hein, on a tous nos chemins qui dérapent, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que Dieu voit en moi? Qu'est-ce que Dieu voit dans les hommes? Qu'est-ce que Dieu voit quand quelqu'un vient pour la première fois ici? Et qu'est-ce que Dieu voit aussi dans la vie des chrétiens? Seigneur, pour avoir l'honnêteté, alors moi, je te dis, donne-moi de voir ce que toi, tu vois en moi. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dira à un moment donné, c'est comme l'homme qui regarde dans un miroir et qui, finalement, il se détourne en disant, c'est comme si je ne t'ai pas vu. Mais quand on se regarde dans un miroir, eh bien, c'est pour peut-être nous remettre, nous peigner, des choses comme ça. Tout le monde le fait, ça. On se peigne dans un miroir, non? Quelquefois, on le fait comme ça, mais alors on ne sait pas si on va avoir les cheveux comme ça ou, hein. On se regarde. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, à ce moment-là, vous regardez. On dit, je suis beau, c'est pas la peine que je me peigne. Mais c'est pour nous remettre en une mise à jour. Hein. C'est pour nous remettre une mise en beauté. On pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Eh bien, c'est ce que ça veut dire, en quelque sorte, là, homologuer, hein, se remettre en cause de notre vie profonde, avec une aspiration de changer. Seigneur, je me regarde, je me donne un coup de peigne, je suis mal coiffé, mais maintenant, je voudrais quand même être bien coiffé. C'est une remise en cause. Pour donner une impression, mais de vérité aux autres. Puis une vérité, peut-être de propreté ou de beauté, je ne sais pas, hein, peu importe, hein, naturellement. Hein. Alors, voir comme Dieu nous voit. Et là, c'est un alignement à ce moment-là. Il n'y a ni excuse ni prétexte. Si le Seigneur nous dit, tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, mais moi, voilà ce que je te montre. Voilà, tu es ceci, tu es cela. Tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela, tu ne devrais pas dire ceci, tu ne devrais pas dire cela. Alors soit on laisse tomber les choses en disant, ben voilà, ben Seigneur, c'est bien comme ça, je ne change rien. Ou alors, Seigneur, moi, je veux changer. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner d'aspirer à changer. Change mon cœur, Seigneur. Vous connaissez le petit cantique, hein? Alors l'essentiel et le nécessaire, ou la nécessaire démarche, qui est personnelle, il nous est dit dans notre texte, nous l'avons lu, et toute chair verra le salut de Dieu. Repentez-vous, confessez vos péchés, soyez baptisés. Et ensuite, eh bien, toute chair verra le salut de Dieu, autrement on ne le voit pas. On reste dans son état, tout simplement. Et Jean-Baptiste dira dans le texte que nous avons lu, eh bien, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. C'est comme la parabole du figuier. C'est comme bien des paraboles de Jésus, ou même encore peut-être certaines allégories qui nous sont présentées dans l'Ancien Testament, où il y a une nécessité, finalement, du fruit. Pas des œuvres, mais du fruit de quelque chose qui vient de Dieu, qui va nous remplir et qui va nous transporter et faire de nous, nous transformer et faire de nous de nouvelles personnes. Vous savez, les paysans le savent, hein. Il y a toujours du blé et de la paille, et de la paille et du blé. Il n'y a pas de blé sans paille, il n'y a pas de paille sans blé. On est d'accord? Enfin, sans épis, si vous aimez mieux, hein. C'est ce que ça veut dire. Le blé, c'est une valeur. Parce que si on cultive un champ, c'est pas pour la paille, c'est pour l'épi de blé. Et on sait ce que l'on en fait, c'est une valeur. Et c'est une continuité, parce que dans le grain, dans un épi, il y a des grains, et quand, après avoir fait l'usage de tout ce que l'on voulait avec le grain, et on fait beaucoup de choses, et entre autres le pain, eh bien, il y a aussi des sélections de graines, où on en retire quelques-unes, pour qu'il puisse y avoir une continuité. C'est ce qui fait que finalement, il y a une suite à la vie. Et un homme qui se convertit à Jésus-Christ, Jésus nous dit, mais celui qui vit et qui croit en moi ne mourra point. Il y a un principe à l'intérieur de nous-mêmes sur le plan moral et spirituel où quand même nous serions morts physiquement, nous avons la continuité. Et c'est Jésus qui le dit, hein. Il y a des paraboles qui sont très fameuses, hein, autour de cela. Donc le blé lui-même, le grain de blé, l'épi de blé est une valeur et une continuité, l'assurance. Mais la paille, bon, c'est une sorte de... C'est insignifiant, la paille. Vous mangez pas de la paille? Non, parce que c'est un peu sec, hein. Bon, la paille, elle est bonne pour faire les couches là des animaux, hein. Je ne sais pas, moi, on peut peut-être faire encore autre chose, mais c'est pas le principal. On cultive pas, on jette pas les épis et pour garder la paille. La paille, elle sert accessoirement et quelquefois, eh bien, c'est une quasi inutilité. Eh bien, la conversion, c'est exactement la même chose. Faut bien penser qu'une véritable conversion, elle va donner du fruit. Le fruit, c'est le grain, c'est les prix de blé. Et puis bon, après, ben, il y a des gens qui finalement, eh bien, ne seront qu'aux pailles. Et quand on connaît ce que Paul nous dit, je crois qu'on l'a vu mercredi dernier, quand il était dit, mais chacun construit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du chaume, du foin, etc., ou du bois, ben, la valeur des choses sera expérimentée par le test du feu. Ça subsiste, c'est de la qualité, ça demeure, mais si ça brûle, il ne reste plus rien naturellement. Et il est question à travers l'épi de blé d'une conversion réelle, et mais il y a toujours des contrefaçons, c'est-à-dire la paille. Il y a le froment et la paille. Alors, on a parlé des préparations, hein. Il nous est parlé de Jean-Baptiste, il disait « Repentez-vous, soyez baptisés, convertissez-vous, confessez vos péchés, etc. etc. » Ça, c'est la préparation. Maintenant, j'aimerais voir brièvement, avant de terminer, les applications de tout cela. Parce qu'on est on ne donnerait, si je m'arrêtais là, je ne donnerais que la moitié. Que faut-il faire? Que faut-il croire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, préparation, on l'a dit, maintenant on va passer aux applications. Et pour cela, je voudrais simplement préciser une chose, il y a quatre catégories de personnes, quatre catégories de personnages, de croyants, on pourrait peut-être dire, croyants ou non, hein, peu importe. Et le premier, eh bien, nous est donné dans Luc. Alors, on va ouvrir maintenant l'évangile de Luc. C'est intéressant de prendre en compte ce que Luc nous dit. Alors, je ne vais pas relire, parce que c'est la même chose que ce qu'on a lu tout à l'heure. Enfin, on peut toujours relire à partir du verset 3, mais on va voir par le détail. Alors, Luc, chapitre 3, verset 3. Je traduis, je paraphrase. Et Jean-Baptiste alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Voilà. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. On l'a vu. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et il est dit par la suite. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Nous l'avons mis dans les préparations. Nous l'avions, commenté dans les préparations il y a un instant. Mais la suite est intéressante. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Et l'accueil est rempli de sentiments et d'amour. Écoutez bien. Race de vipères. Ça vous encourage. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. De même, la cognée émise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, sera jeté au feu. Voilà. Alors il est question de qui, là, dans ce texte? Si vous lisez dans Marc, vous allez le voir. Probablement également dans Matthieu, je ne l'ai pas relevé, mais il s'agit des pharisiens. Première catégorie, les pharisiens, qui se disaient les amis de Dieu, qui se disaient les supporters de Dieu, qui se disaient les représentants de Dieu, des croyants hors pair par l'extérieur. Et nous avons vu comment Jean-Baptiste leur parle. Alors ils venaient en foule aussi. Probablement certains sacrificateurs, lévites, et puis tout ce monde qui avait pignon sur rue, enfin qui était de réputation, des notables, etc., etc., qui fréquentaient continuellement les synagogues et le temple de Jérusalem, enfin des gens de religieux, on veut dire, hein, des pharisiens. Pour ce type de croyants, la repentance portée sur des choses dont Jésus leur dira souvent, ils devaient se repentir de leur hypocrisie d'abord. Ah oui, hypocrite, pharisien, hypocrite. Ça, ça revient, je ne sais pas combien de fois dans les évangiles. Hein. Les formes extérieures, ils devaient se repentir des formes extérieures de la religiosité et de tous les faux-semblants. Ils avaient l'apparence, mais le cœur, il n'y avait rien du tout à l'intérieur. C'était le vide. Et à cause de leur orgueil, et de leur vanité d'être applaudis par les hommes, pour les appeler rabbis, pour les appeler maîtres, pour les appeler tout ce qu'ils voulaient, père et tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 23. Jésus fera un réquisitoire très très sévère, hein, par rapport aux pharisiens. Eh bien, en raison de leur orgueil, en raison de leur supériorité de rang, parce qu'ils pensaient être plus près de Dieu que les autres, en raison de leur autorité dominante, voire même prédateur des âmes, alors, pour eux, leur cœur était imperméable, je dis bien imperméable à la repentance. C'est pas possible. Ils pensaient que finalement c'était eux les meilleurs. D'ailleurs, quand on voit dans le temple de Jérusalem, la petite parabole de Jésus, le pharisien qui rentre et qui là dit, Seigneur, hein, sans moi, hein, le monde serait pas le monde, hein. Moi je suis le meilleur, hein, je suis le plus beau, hein, je suis le plus intelligent. Alors bon, on comprend qu'il y a quand même quelque chose qui va pas là. Donc Jésus le savait, Jean-Baptiste le savait, quand il a vu les pharisiens venir, ces gens religieux, ces gens de la religion d'Israël, venir pour se faire baptiser, leur a dit, attendez, là il y a un petit problème, hein. Permettez-moi de vous le dire, ils n'étaient pas contents, mais enfin il leur a dit d'une manière très aimable, hein, race de vipères, hein, ce qui fait plaisir à entendre, mais toujours est-il, ils ont compris ce que ça voulait dire, en disant, mais arrêtez avec votre hypocrisie, vos faux semblants, vous demandez à être baptisés, vous demandez finalement, eh bien, que Dieu vous bénisse, mais regardez à l'intérieur ce que vous êtes, regardez ce que vous êtes, faux semblants. Alors, ils étaient devenus complètement fermés. Et c'est toujours Jean-Baptiste qui dira, mais de ces pierres, les pierres du Jourdain, alors si vous voulez vous convertir, mais Dieu est capable de faire sortir des vrais Israélites, de vrais disciples, de vrais croyants, de vrais chrétiens, si on veut dire maintenant, de vrais chrétiens de ces pierres, parce que Dieu est capable, hein, de transformer une pierre et de leur faire véritablement un homme de Dieu. Mais vous, vous, qu'est-ce que vous êtes en quelque sorte, avec votre votre prétendue majesté d'être supérieur et plus intelligent. D'ailleurs, Jésus va leur dire à un moment donné, il va leur fermer la bouche, il va dire que finalement Dieu se révèle non pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants, c'est-à-dire ceux qui sont humbles et qui sont prêts à recevoir de ces pierres-là. Dieu est capable de faire finalement ce que vous n'êtes pas, cœur de pierre. Oui. Les pharisiens étaient des hommes avec un cœur de pierre, et ils avaient l'illusion de la vérité, et ils se cachaient derrière des rites, derrière des traditions, s'imaginant sans faute et sans reproche. Alors, on comprend que Jean-Baptiste leur a dit « Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Si vous présentez sale comme vous êtes, parce que c'était véritablement quelque chose d'impur ce qu'ils faisaient. Ah, ils avaient la religion derrière eux. Ils avaient la religion comme couverture. Et ils se disaient, mais avec ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Nous sommes véritablement... Non, ils n'étaient rien du tout, quelque part. Et ils se disaient, même à la limite, ils se disaient, mais nous, les Juifs, nous avons Abraham pour père. C'est pour ça qu'il est dit, mais Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous savez, c'est pas parce qu'on a été élevé dans un milieu, pour les uns diront, voilà, religieux, pour d'autres diront évangélique et tout ça, c'est pas parce qu'on a été élevé dans ce milieu qu'on est converti. Hein. Mais eux, ils se disaient, ben nous sommes les enfants de Dieu parce que Abraham est notre père. C'était un petit peu difficile. Et Jésus leur dira dans Jean chapitre 8, moi je vais vous dire qui est votre père. C'est pas Abraham, c'est le diable. Vous savez que Jésus ne ménageait pas ses mots. Hein. Alors, ça, c'est la première catégorie d'hommes. Le deuxième type, on l'a toujours dans Luc, chapitre 3, et on va lire le verset 10 et 11. La foule l'interrogeait, deuxième catégorie d'hommes, d'individus, disant « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même avec celui qui a faim. » Alors ça, on pourrait dire que cette deuxième catégorie, c'est la foule. Vous savez comment ils s'appellent ? Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est un bon nom, ça. Hein ? On n'est pas tout seul. Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Des Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il y en avait du temps de Jean-Baptiste, du temps de Jésus, et puis il y en a encore aujourd'hui. Des gens qui, quelque part, se disent « Nous sommes des braves gens, tout simplement. » Vous avez remarqué, les pharisiens n'ont pas demandé à Jean-Baptiste « Que devons-nous faire ?» puisque ils étaient tellement orgueilleux, ils savaient déjà ce qu'il fallait faire. Vous avez remarqué ? Par contre, les trois catégories suivantes vont venir voir Jean-Baptiste, vous saisissez. Hein. Les trois catégories vont dire, mais que devons-nous faire ? Donc il y a quand même un espoir, il y a un désir quelque part d'en savoir davantage. Que devons-nous faire ? Eh bien, quand on a lu ce qu'il est dit, Jean-Baptiste a répondu que celui qui a deux tuniques partage, que celui qui mange, eh bien donne aussi de quoi manger à celui qui n'a pas, finalement. Ça veut dire qu'il y avait la repentance de cette foule, de ces gens, monsieur et madame tout le monde, pour que leur repentance soit vraiment concrète et qu'ils puissent se faire baptiser, c'est-à-dire s'engager, eh bien, c'était d'abord l'honnêteté. C'était aussi la probité, c'était la vérité, marquée par le partage et la bienfaisance, en d'autres termes, la charité. La lutte contre l'égoïsme. Eh oui, tout est pour moi, rien pour les autres. C'est l'histoire de la parabole, vous savez, de ce paysan qui remplit ses greniers, etc. Et puis qui va mourir le jour de sa retraite. J'en parle pas trop parce que... Eh oui, il est mort le jour de sa retraite. Et puis Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette richesse ? Tu vas mourir ! Alors si vous entendez parler de ça, vous me prévenez hein, quand même. Moi je liquide tous mes biens, mes fortunes et tout ça. Hein. Non, mais... Ben, je plaisante, hein, mais... Leur repentance... de ce monsieur tout le monde qui se dit bien, qui se dit brave, qu'il n'a jamais tué ni volé, c'était justement, eh bien, de sortir de son égoïsme, donne à celui qui a faim, partage avec celui qui a froid, etc., etc. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est le verset 12 et 13. Il vint aussi devant Jean-Baptiste des publicains pour être baptisés et lui dire, maître, que devons-nous faire? Alors il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Il s'agit de qui ? Il s'agit tout simplement des publicains. Il y avait les pharisiens et il y avait les publicains. Aujourd'hui chez nous, nous avons les parisiens. Non, je me trompe là. Hein ? Non, j'enlève cela, il se trouve dans la Bible. Non, mais les publicains. Les publicains, c'étaient des gens qui, quelque part, n'avaient jamais tellement trop pensé à Dieu. Ils n'allaient pas dans les synagogues, ils n'allaient pas au temple de Jérusalem, parce qu'ils avaient vu un peu la comédie des pharisiens avec leur tralala, et puis ça les intéressait pas. Et il y a longtemps qu'ils avaient fermé la porte, finalement, et bien même de leur cœur, en disant « si Dieu, c'est la religion », alors à ce moment-là, ne m'en parlez pas. Il y a des milliers de personnes qui pensent la même chose, hein. Ça j'aurais vous dire. Mais c'était pas pour autant... Ils n'étaient pas hypocrites en tous les cas. Ils jouaient pas la comédie, les publicains. Ils avaient des défauts. Ils avaient des gros péchés aussi, hein, parce que bon, je peux vous dire que on va pas rentrer dans les détails, mais toutes sortes de gens là, qui avaient des mœurs mondaines et j'en passe et des meilleurs, ils faisaient partie justement de cela. Alors ils sont venus pour dire à Jean-Baptiste, mais que devons-nous faire? Ils étaient en quête de savoir. Oui, nous sommes dans cette catégorie. Nous sommes les méprisés parce que nous avons une vie dissolue, etc., etc. Qu'est-ce que nous venons faire? La repentance pour eux, leur repentance était orientée plutôt davantage à considérer, parce qu'il y avait un problème, l'argent comme un moyen, devait considérer ou devait reconsidérer l'argent comme un moyen et non comme une idole. Alors ça frappe en plein coin dans notre société d'aujourd'hui. Ben oui, on pourrait peut-être penser que ça peut être ça aussi. L'argent comme un moyen, mais pas comme une idole. Vous connaissez M. Zaché, ça vient, hein? Oui, ben c'était justement le problème, hein? C'était un publicain. Et puis il y en a eu d'autres comme ça. Mais Zaché était un homme qui véritablement voulait que ça change dans sa vie. Et il est venu vers Jésus. Nicodème, lui qui était un pharisien, lui est venu de nuit, il voulait que ça change aussi dans sa vie. C'est encore un autre genre. Parce que les pharisiens sacrifiaient à cette idole de l'argent, c'était des gens qui faisaient des affaires, qui faisaient du commerce, puis quand ils pouvaient prendre un petit peu plus, etc., etc., ben, ils étaient contents, ils se frottaient les mains en disant que le client n'a rien vu. Hein. En quelque sorte, leur morale devait changer pour devenir une bonne morale, une bonne moralité, c'est-à-dire ne plus voler, ne plus se livrer à la rapine, tromper dans les affaires, etc., etc. Là, c'est-à-dire mentir, parce que le vol et le mensonge, ça va ensemble, hein. Et ils devaient changer. Et quand ils sont venus vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a dit, bien voilà, n'exigez rien au-delà de ce que vous êtes, de ce qui vous a été ordonné. Soyez honnêtes. Soyez probres. Ne trompez personne. Et c'est ce qui se passait très souvent chez les publicains. La quatrième catégorie d'individus, ce sont les soldats. Alors, je ne sais pas s'ils étaient romains ou s'ils étaient des soldats d'Hérode ou un truc. Mais bon, c'est les soldats. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Tiens, c'est intéressant. Parce que cette catégorie d'individus devait se repentir ou leur repentance devait porter finalement sur tous les abus qu'un soldat peut se permettre, les violences, les brutalités et les extorsions. Vous savez, les soldats, quand ils sont en campagne, il s'agit d'un ennemi ou d'un pays étranger, ils se gênent pas. Bon, aujourd'hui, c'est normalisé, hein, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, et heureusement. Mais les soldats, certainement du temps de Jésus, du temps d'Israël à cette époque, ben, je peux vous dire que quand ils avaient l'occasion, hein, leur solde ne devait pas être payé tous les mois, alors ils servaient au passage. Hein. Il y avait des pillages, il y avait toutes sortes de choses. Et quand les soldats sont venus voir Jean-Baptiste et lui ont dit « Nous, nous voulons changer aussi. Nous voulons que notre vie soit changée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Nous voulons être baptisés, comme tu le dis, puisque tu nous annonces quelque chose de nouveau. Nous, nous voulons participer et nous voulons nous faire baptiser. » Alors il leur a dit « Écoutez, c'est très bien. » Il n'aura pas fait de reproche comme aux pharisiens. Hein. Il les a pas appelés race de vipères, ni les publicains, ni les gens de la foule, ni les soldats. Il leur a dit, voilà moi ce que je vous demande. Tout simplement, de produire le fruit de la repentance. Plus de violence, plus de brutalité. Vous êtes soldats, vous êtes là, et bien là, dans une mission, mais au moins, soyez honnêtes dans cette affaire. Et ne maltraitez pas les gens. Tout simplement. Produisez donc du fruit de la repentance. Ce qui veut dire, pour tous, montrer de l'obéissance à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous l'avons devant les yeux ce soir. C'est la parole de Dieu et vous pourrez continuer à la lire autant que vous voudrez et vous verrez que la volonté de Dieu, elle n'est pas pénible, elle n'est pas impossible si nous le voulons. Alors, montrez de l'obéissance. Vous êtes le blé, mais surtout, je vous en conjure, restez blé. Gardez finalement eh bien, ce que Dieu vous a donné, restez blé. C'est comme le sel. Pourvu que le sel garde sa saveur, autrement il ne sert plus à rien. Comprenez ce que ça veut dire. Et vous n'êtes pas la paille, parce que la paille, elle brûle et elle ne sert pas à grand-chose. Elle se transforme en cendre. La valeur que nous avons, c'est que nous sommes vraiment le blé. Oui, nous sommes beaucoup de choses pour Dieu. Le sel, la lumière, nous sommes l'épi de blé qui va se renouveler, qui va par le témoignage, mais un bon témoignage. Pas un témoignage verbal, mais un témoignage de vie où les gens diront « Oui, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, il a véritablement changé, il y a quelque chose dans sa vie. » Et ça va faire envie aux autres, naturellement. La conclusion, c'est une question. Que devons-nous faire? Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit ceci, je le lis brièvement. Au moment où, après la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre qui va devoir prendre la parole devant des milliers de personnes à Jérusalem. Et les hommes, il va donner un discours, il va faire un discours sur Jésus ressuscité. Et il dira, après avoir entendu ce discours, les hommes de Jérusalem eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est exactement la même question. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Baptisé au nom de Jésus, pas au nom de Jean-Baptiste là, c'est autre chose. Pour le pardon des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, pour vous, pour vos enfants, et aussi au grand nombre que Dieu les amènera. Alors faire où? Vous savez, pour les soldats, ou pour les usuriers comme les publicains, se convertir, c'est pas changer de métier. En disant, je touche plus à ce métier parce que, oh, il est horrible, etc. C'est garder son travail, garder son métier, garder la situation dans laquelle nous sommes, et toutes les autres particularités ou l'état dans lequel eh bien, nous vivons. Ça, nous devons le garder. Mais ce n'est pas changer de ceci et cela, c'est changer de vie, tout en gardant notre vie d'avant. C'est ça, justement, le grand challenge qui est à relever. Ce que nous sommes, Dieu nous a mis dans une place, il nous a mis dans une position. Je me suis converti, maintenant j'abandonne ma femme et mes enfants. Ben non. Je change de travail parce que Dieu... Non. Tu restes là jusqu'au moment où Dieu va te montrer qu'il faut aller peut-être plus loin, faire autre chose. Mais une chose qui est certaine, c'est changer de vie. Dans l'état dans lequel nous sommes, tout simplement, encore mieux, en laissant Dieu changer nos cœurs. Ça, c'est encore mieux, hein. Parce que si on veut essayer de changer notre vie nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Mais permettre à Dieu de changer nos cœurs, à faire des choses extraordinaires qui nous seraient impossibles dans la pratique du quotidien et donner la preuve que le fruit d'une transformation s'est opéré parce que la foi en celui qui sait tout, qui peut tout, qui fait tout et en qui nous avons mis notre espérance et notre confiance, c'est lui qui nous en donnera la capacité, c'est pour ça, il est dit, Jean-Baptiste dira, lui, il vient après moi, il est plus grand que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu qui purifie nos cœurs, et le Saint-Esprit, qui finalement, eh bien, nous ouvre les portes de la compréhension, de l'intelligence et de la lumière, dont nous avons besoin, et de la transformation. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus dira, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jean-Baptiste nous disait la même chose. Alors, on peut terminer ce soir pour vous et pour tous ceux qui entendront ce message, parce qu'il va aller loin, je peux vous le dire. Préparez le chemin du Seigneur pour l'accueillir. C'est tout. Préparez-vous. Préparons-nous et ouvrons notre cœur au Seigneur. C'est lui qui va le remplir et qui va changer notre vie. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que il y a ce que nous pourrions dire toute un développement dans cette étude, dans l'articulation, Seigneur, et nous croyons que lorsque nous plongeons nos regards dans ces récits de l'Évangile, combien il y a de choses formidables et merveilleuses. Tu n'es pas venu pour juger les hommes, tu n'es pas venu pour les condamner, nous l'avons vu, qu'ils soient pharisiens, qu'ils soient publicains, qu'ils soient hommes de la foule, ou qu'ils soient soldats, quel que soit, Seigneur, leur état ou leur situation de vie, d'existence. Non. Tu as invité tous les hommes, avant de dire aux pharisiens ce que tu leur as dit, qui était très rigoureux et qui était une véritable, en effet, qui décriait finalement ce qu'ils étaient en réalité. Tu as dit, Seigneur, tout simplement que tu étais venu véritablement pour sauver les hommes, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils confessent leurs péchés, et qu'ils puissent voir le salut de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce soir, dans ces quatre catégories, Seigneur, qui ont été développées, nous voulons véritablement, quelle que soit notre appartenance, ou quel que soit, Seigneur, où nous en sommes, peu importe, nous avons entendu ton appel. Et nous avons entendu ton appel et suscite en nous, Seigneur, une véritable repentance si c'est nécessaire. Suscite en nous, Seigneur, eh bien, le courage de confesser nos péchés. Suscite en nous le choix, Seigneur, de faire de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Suscite en nous, Seigneur, une grande foi, une grande confiance pour te laisser tout faire dans notre vie, dans notre cœur, le changer, le transformer et faire de nous, Seigneur, eh bien, du blé, faire de nous des épis de blé qui, en effet, eh bien, devant les anges, devant les hommes, ont une grande valeur, hein, parce que nous savons que le blé, c'est véritablement, Seigneur, quelque chose de précieux, mais c'est aussi, en effet, la promesse d'une régénération, d'une transformation, d'une multiplication, d'une reproduction aussi. Parce qu'avec un grain de blé, lorsqu'il est mis en terre, il produit pour certains 40, 80 ou même 100. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous de porter des fruits dignes de la repentance. Merci Jésus. Amen. Amen.